Chapitre 16. La grande brèche. En descendant de l'hélicoptère, nous fûmes immédiatement saisis par le froid et le silence que perçaient le chant des oiseaux et le soleil matinal. Il était 8h30. La moitié de la profonde vallée était plongée dans l'ombre d'un matin de printemps. Autour de nous s'élevaient des forêts de pins alors que la rivière coulait avec fracas à nos pieds. Nous étions à 2000 mètres, dans un monde nouveau. Tous les bruits faisaient écho contre les montagnes gigantesques qui s'élevaient à 5 500 mètres de chaque côté de la rivière jusqu'au sommet couvert de neige. Le lourd parfum des aiguilles de pin se mêlait à l'odeur de la terre, tandis que le soleil matinal évaporait la rosée. Il n'y eut tout d'abord personne en vue, bien que de l'autre côté de la rivière, à 800 mètres de nous, se dressaient quelques maisons au pied d'une paroi presque verticale. Soudain, nous entendîmes des cris. Un cavalier galopait vers nous. Cette vision d'un autre âge nous fit réaliser que nous avions enfin atteint le monde romantique des grandes chaînes de l'Himalaya. Il était difficile de croire que, là-bas vers le sud, dans cette même eau, vivaient des crocodiles. Le cavalier essaya vainement de franchir la rivière à gué, fit une volte-face et descendit pour traverser le pont qui marquait le sommet de la première cataracte. Sur notre rive, plusieurs hommes venaient vers nous en courant. L'un d'eux, un Tibétain, portait un manteau de grosse laine rouge foncé. Les autres étaient emmitouflés dans des vestes de laine jaune. Pour tous, la venue d'un hélicoptère, sans doute le premier, était certainement un grand événement. Bientôt, une petite foule s'assembla à distance respectueuse et nous regarda décharger notre matériel. Pendant ce temps, le pilote vida un jerrycan dans son réservoir. Nous étions encore tous étourdis par le vol quand il vint nous serrer la main et nous souhaiter bonne chance. Nous le remerciâmes chaleureusement. La foule recula et le retors, en prenant de la vitesse, fit voler les cailloux et les brins d'herbe. La grande libellule s'éleva doucement, resta un moment suspendue au-dessus de nos têtes, tourna sur elle-même et disparut. Le battement régulier du retors fit place à un silence étrange. La foule nous regarda en souriant. Je fis le tour de la petite lagune de terre, étonné par les flots glacés de la rivière où nous avions été déposés. Nous avions bien fait de nous vêtir chaudement. Je sortis de nos sacs mes bottes de plongée, sorte de chaussettes collantes en mousse de caoutchouc qui devaient, m'avait-on promis, tenir mes pieds au chaud. Précaution vitale, car l'eau qui descendait tout droit des glaciers n'était pas loin du point de congélation. De toutes parts, notre promontoire tombait à pic dans l'eau. Nous devrions donc descendre notre aéroglisseur, ce qui ne serait pas manœuvre facile. Un faux mouvement, une glissade et l'engin partirait au fil de l'eau. Nous eûmes la chance de trouver, à une extrémité, un endroit où l'eau était peu profonde et le courant très faible. C'est de là que nous partirons. Rapidement, avec Michael, j'assemblai notre appareil. Les curieux furent très étonnés de voir que la coque se gonflait progressivement. Ils n'avaient jamais vu de caoutchouc. Nous fixâmes le plancher, les moteurs, les câbles et le gouvernail et fîmes toutes les connexions. Combien de fois avions-nous réalisé ces opérations depuis notre départ ? Nous étions bien entraînés et connaissions par cœur le moindre boulon, mais cette fois, nous y apportions encore plus de soins que d'habitude. Le succès de notre mission pouvait dépendre d'une minuscule goupille. Tout en travaillant, je sentais croître ma nervosité. Toute la partie visible de la rivière n'était qu'un immense rapide, et tout en n'offrant pas trop de brisants, elle présentait une surface uniformément turbulente. Vers l'amont, à 1,5 km, la rivière disparaissait mystérieusement entre deux éperons vertigineux qui montaient en flèche à l'assaut des crêtes neigeuses. C'était l'entrée du grand passage de l'Himalaya. Ce que je voyais vers l'aval n'était guère plus rassurant. À 800 mètres de nous, la rivière faisait son premier plongeon vers les cataractes. Tombée en panne au départ, c'était dérivé vers une mort certaine. Ce cauchemar hantait notre sommeil depuis le départ, et en choisissant de partir si près du bord de la première cataracte, nous prenions un risque énorme. Michael mit en route les moteurs pour un tour d'essai sur la terre ferme. Nous allions enfin connaître les effets de l'altitude sur notre appareil. Nous savions que nos moteurs allaient perdre pas mal de puissance, mais en resterait-il assez pour remonter les rapides interminables? Tout semblait normal, mais il fallut régler les carburateurs pour qu'ils admettent une plus grande quantité d'air. L'instant était venu de se jeter à l'eau. Nous décidâmes que je franchirais la grande brèche le premier. Michael suivrait à pied, avec la réserve d'essence, les pièces détachées et le reste de notre équipement, aidé de porteurs recrutés dans la foule. La piste qu'il allait prendre suivrait une corniche du haut de laquelle Michael pourrait, je l'espérais, vérifier de temps en temps si je n'étais pas en difficulté sur la rivière. Si tout allait bien, nous devrions nous retrouver à mi-chemin du grand passage à 25 km en amont, à Tukucha, le plus grand village de la région, capitale des Takalis, une tribu de 6000 âmes qui vit sur les bords du Kaligandaki. Depuis la nuit des temps, le Haut Kaligandaki a été une région stratégique d'une grande importance commerciale et religieuse. Les Takalis sont aujourd'hui les rois de la rivière, depuis qu'ils contrôlent le commerce lucratif du sel tibétain qui transite par la Grande Brèche. Ceux d'entre eux, qui ne s'occupent pas du trafic, tiennent les auberges le long de la grande piste qui, à travers la brèche, relie le Tibet à l'Inde. Autrefois, le commerce du sel était aux mains des seigneurs d'origine tibétaine, maîtres de forteresses dont les ruines jalonnent les flancs escarpés de la rivière, au nord de Tukucha. Longtemps, les chefs suprêmes de la région ont été les rois du Mustang, seigneurs tibétains qui avaient conquis les plus puissants de ces châteaux forts et établi le petit royaume que j'avais exploré en 1964. À la fin du XVIIIe siècle, après bien des batailles, les rois du Mustang devinrent vassaux des rois de Jumla, principauté à l'ouest du Népal. Quand quelques années plus tard, en 1796, le royaume de Jumla tomba sous la coupe des rois Gurkha, le Rialpo du Mustang devint le vassal du roi du Népal, qui lui conféra le titre de Raja, titre que ses descendants portent encore aujourd'hui. Les Rajas du Mustang continuèrent à régner sur leurs terres isolées, prélevant la taxe substantielle sur le commerce du sel, quand, en 1876, quelques marchands Takalis, aidés du Maharaja népalais, leur enlevèrent leur monopole. Depuis cette date, les Takalis sont prospérés aux dépens du Mustang, dont les paysans appauvris continuent à convoyer le sel, mais non plus au profit de leur Raja qui, aujourd'hui, règne sur un pays appauvri, le royaume le plus isolé et oublié du monde. Si à Davega, le Kaligandaki était déjà considéré comme sacré, j'allais maintenant essayer de naviguer sur la piste la plus sainte de tout son cours. En effet, la Grande Brèche est célèbre non seulement par sa route du sel, mais aussi parce que c'est de là que proviennent toutes les salagraines, c'est-à-dire les pierres sacrées que l'on vénère dans toute l'Inde. Ces salagraines sont en effet des fossiles d'ammonites, escargots préhistoriques, et sont tenus pour être des produits surnaturels symbolisant la roue de vie des hindous et des bouddhistes. On les trouve en grand nombre dans le lit de la rivière, là où l'Himalaya rejoint le plateau tibétain, au nord de Tukucha, et aussi non loin du temple de Muktina, grand centre de pèlerinage dont la renommée rivalise avec celle des pierres sacrées et la complète. Ce temple est mentionné dans les textes bouddhistes et hindous les plus anciens. Il est appelé Shuming Khatsayi, en tibétain ce qui veut dire « les 800 fontaines ». Malgré ce nom, Muktina, ainsi que ce temple se nomme en hindou, est célèbre non pour ses fontaines, mais pour le miracle de l'eau, du rocher et de la terre qui brûle à l'intérieur du temple. Ces feux naturels ont été pendant des siècles l'objet d'une dévotion émerveillée à la fois de la part des bouddhistes et des hindous. Ils sont dus, en réalité, à une fuite de gaz surnaturel enflammée qui débouche en même temps de l'eau à travers le sol du temple. En principe, pour que tout aille bien, je sautais dans la rivière. Mes pieds s'enfoncèrent dans le sable mouillé, l'eau glacée tourbillonnait au-dessus de mes genoux. Grâce à mes bottes de plongeur, la sensation de froid diminua rapidement et, à mon grand étonnement, mes pieds se réchauffèrent. Sans ces bottes, je n'aurais pas pu rester dans l'eau plus de 2 minutes. Avec l'aide de quelques curieux, Michael fit descendre vers moi l'appareil. Dès que l'engin tomba sur l'eau, je l'arrachai du courant, le tirant sur un banc de sable tout proche. Il y a des gens qui n'ont jamais peur. Moi, je tremblais, là, au bord de la grande rivière, conscient de la force des flots glacés qui dévalaient vers moi comme un long rapide sans fin. J'eus des frissons en levant les yeux vers les arbres et les parois rocheuses presque verticales qui s'élevaient à plus de 4000 mètres jusqu'au champ de neige. Et je n'étais pas loin de la panique quand je pensais aux cataractes. Tout en mettant en route mes moteurs, je me demandais si je n'étais pas fou. Enfin, je me lançai sur la rivière, en priant Dieu de me protéger. Le courant me fit immédiatement tourner sur moi-même, très lentement. Soudain, mon cœur s'arrêta de battre. 002 partait en crabe, emporté par le courant vers la cataracte. Je poussai le moteur à fond et continuai à dériver, mais cette fois vers la berge, où par bonheur je m'échouai sur un rocher. Je tripotais le carburateur pour essayer d'obtenir plus de puissance. Les moteurs se mirent à tourner plus vite. Je m'élançai de nouveau à contre-courant. Cette fois, très lentement, j'ai réussi à progresser sur quelques centaines de mètres tout en essayant les diverses commandes. Je remarquai que les plus faibles turbulences me faisaient piquer du nez. Je ne pouvais rien faire contre ce manque de substance. Après avoir encore dérivé vers le rivage, je fis un geste d'adieu à Michael et m'enfonçai lentement vers la brèche. Il était 9h30. Éclaboussé d'écume glacée, je prenais progressivement de la vitesse en me plaçant dans le cockpit de façon à ne pas aggraver la tendance qu'avait mon engin à plonger de la proue. Sans me soucier de l'eau qui me coulait dans le cou, je m'engageai à une bonne vitesse dans la première courbe et perdis Michael de vue. Devant moi, la rivière se rétrécissait entre deux colonnes de rochers qui forment la base des contreforts les plus impressionnants du monde et qui s'élèvent à la verticale pour soutenir les pics de plus de 8000 mètres d'altitude. J'entrai dans la grande brèche. Réduite aux dimensions d'un insecte, seul et plein d'appréhension, je poursuivis mon chemin vers l'amont. Soudain, je me retrouvais enfermé de tous les côtés. Je ne voyais de sortie nulle part. Je craignais de tomber d'un moment à l'autre sur un passage infranchissable, mais la rivière continuait à couler rapidement, mais sans grande turbulence, sur un lit de petits galets plats. Bientôt, je dus passer une série de vagues dont les crêtes écumantes se suivaient de près. Penché en avant pour essayer d'aider mon engin, j'avais l'impression de ne plus avancer. En prenant un repère sur les flancs rocheux du canyon, je vis même que je reculais. Je m'orientai donc doucement vers la falaise, là où l'eau était plus calme. Je lançai mes moteurs à fond à nouveau et réussis à passer le rapide. Chaque minute me semblait durer des heures. Parfois, je me retournais machinalement, mais personne, cette fois, ne me suivait. Quoi qu'il arrivât, il n'y aurait aucun témoin. Après un long virage, la rivière s'élargit. Je vis sur ma gauche le lit de gravier d'un gros torrent qui se précipitait vers moi. Il prenait sa source dans un glacier au-dessus de ma tête, d'où il tombait par bond à 1000 mètres. L'eau, au-dessus de laquelle je planais, pouvait bien être glaciale. Je voyais l'influence sourde au-dessus de la glace verte qui scintillait au soleil. La rivière se rétrécit une fois de plus et, de nouveau, dans une courbe, je dus affronter une turbulence périlleuse. Je heurtai un rocher qui me renvoyait sur un banc où mon engin s'échoua. Je dus descendre et le tirer sur quelques mètres avant de reprendre ma route et heurter aussitôt un nouveau rocher. Il me semblait que ma jupe ne se raidissait pas à la hauteur normale. Je fus obligé de quitter encore une fois mon engin pour le tirer de son mauvais pas. Je réussis à la deuxième tentative. Je m'engageai alors vers le milieu de la rivière et, à plein gaz, parvins à prendre assez de vitesse pour vaincre le courant. Ce n'est que beaucoup plus tard que je compris pourquoi mon aéroglisseur volait si bas au-dessus de l'eau. Dans leurs calculs, les ingénieurs n'avaient pas tenu compte d'un élément important. Alors que, à haute altitude, le poids de l'engin reste le même et qu'il ne peut donc pas, en principe, augmenter la pression d'air pour le soulever, par contre, la pression à l'intérieur de la jupe n'était plus la pression requise, puisque l'air est plus léger. Ainsi, la jupe ne pouvait donc pas se gonfler suffisamment pour renfermer un coussin d'air normal, ce qui réduisait ma hauteur au-dessus du sol de quelques centimètres. Il en résultait deux inconvénients. J'étais beaucoup plus sensible au frottement de l'eau sur la jupe et je risquais de m'échouer sur les rochers bas. Tout cela me ralentissait et pouvait même m'obliger à stopper si je n'avais pas assez d'élan. Après une large courbe, le lit de la rivière s'élargit et je débouchai sur le fond de la vallée, tapissé de pierres alluviales coincées entre les parois de la gorge qui s'élevaient à plus de 5 kilomètres au-dessus de moi. J'atteignis enfin l'extrémité du large couloir de 15 kilomètres de long à l'autre bout duquel se trouvait Tukucha. Les rayons du soleil touchaient enfin le fond du canyon et donnaient une apparence d'ivoire au lit de la rivière qui, par endroits, avait 800 mètres de large. Ce tronçon, couvert de gravier, était assez raide. La rivière s'y ruait en grondant, rejetait d'une paroi à l'autre et se divisant souvent en plusieurs bras qui se fourvoyaient en serpentant sur le lit des galets. Malheureusement, la plupart des pierres qui jonchaient le lit de la rivière étaient trop grosses pour que je puisse les survoler. J'étais donc obligé de rester au-dessus de l'eau. À un moment donné, le cours se rétrécit pour former un rapide violent qui allait s'écraser sur le mur abrupt de la falaise rocheuse. À mi-hauteur de cette falaise, je vis la corniche où passait la piste de sel. Je dus m'y reprendre à plusieurs fois pour franchir ce barrage que m'opposait la rivière. Au-delà, je me retrouvais sur la pente douce et calme qui marquait le fond du lac formé jadis par la rivière quand celle-ci avait assailli l'Himalaya il y a de cela des millions d'années. D'après mes estimations, je devais maintenant me situer sur la ligne qui joindrait les sommets de Dholagiri et de l'Annapurna. Jusqu'ici, pensais-je, tout va bien. Au même moment, le fond de mon engin racla un amas de grosses pierres. Pendant 10 minutes, je luttai pour le dégager, sautant dans l'eau pour le tirer sur quelques mètres, puis bondissant dans l'aéroglisseur trempé de la tête aux pieds, transi par le froid et le vent, malgré tout répété plusieurs fois la manœuvre. J'étais obsédé par une idée. Il faut que je passe. Chaque mètre gagné me rapprochait du but, de tout coup de chat, puis au-delà des autres gorges qui débouchaient sur le versant nord de l'Himalaya. Sur ma droite et sur ma gauche, je vis plusieurs hameaux blottis sur la berge étroite qui séparait la rivière du pied de la falaise. Quelques kilomètres plus loin, à droite, j'aperçus la masse rectangulaire d'un monastère juché sur un éperon rocheux. C'était Narchang, le premier couvent bouddhiste tibétain de notre route, la limite sud d'une longue chaîne de monastères qui se prolonge jusqu'à Lhasa, le centre sacré du Nouveau Monde que j'abordais. Tandis que je continuais ma route vers le plateau du Tibet, les falaises, de part et d'autre de la rivière, révélaient les premières traces de sédiments inconnus dans le reste du Népal. J'approchais de la frontière géologique qui marque l'endroit où deux continents à la dérive se sont heurtés de front, causant la plus grande collision de tous les temps qui a fait se dresser l'Himalaya. La végétation changeait, elle aussi, tandis que je me rapprochais de la toundra désertique du Tibet. Les pins se raréfiaient, l'herbe brûlée et sèche se clairsemait. Trempé, je tremblais de froid, mais j'étais heureux. Au pied du monastère, je montai sur le gravier de la berge et m'arrêtai. Pendant tous les mois qui venaient de s'écouler, j'avais souvent rêvé du moment où je pourrais me poser à proximité de l'un de ces couvents. Au-dessus de moi se dressait le grand bâtiment massif, aux murs blanchis à la chaux, au toit plat bordé d'une bande de peinture ocre, aux quatre coins des drapeaux de pierre flottés dans la brise du matin. Brise qui allait bientôt se transformer en une terrible tempête qui s'engouffrerait en hurlant, comme chaque jour, dans la grande brèche de l'Himalaya. Pendant que je regardais le monastère, une foule d'environ 300 personnes s'était allongée sur la rive. Je tirai mon appareil de son sac imperméable et pris plusieurs photos. Ici, plus qu'ailleurs, l'aéroglisseur produisait un choc. À part peut-être quelques rares individus, personne n'avait jamais vu une machine, pas même un vélo, à part de temps en temps, un hélicoptère passant très haut au-dessus de leur tête. Je me souvenais des réactions de l'un de mes amis du Mustang quand il avait vu pour la première fois un engin à moteur, en l'occurrence un hélicoptère. Il avait cru que c'était un homme qui battait les bras au-dessus de lui en criant. Il n'aurait pu imaginer que cet objet qui bougeait en faisant du bruit pouvait être autre chose qu'un être humain ou un animal. Sa réaction avait été encore plus étonnante quand il avait vu de près le même hélicoptère après son atterrissage. Alors, me raconta-t-il, j'ai compris que ce n'était qu'une combinaison extraordinaire d'éléments physiques et chimiques, et j'ai senti que nous devions être bêtes comme des vaches pour ne pas être capables de fabriquer quelque chose d'aussi malin. J'appris quelques heures plus tard ce que les gens avaient pensé en entendant et en voyant mon aéroglisseur. Leur réaction fut à la fois décevante et logique. Pour eux, j'ai été un hélicoptère en difficulté sur l'eau. L'hélicoptère étant le seul engin qu'ils connaissent, ils croient que toutes les machines doivent par force être des hélicoptères. Ils ne me prenaient donc ni pour un dieu, ni pour un dragon. J'étais quelque chose de beaucoup moins impressionnant, un hélicoptère raté. Je ne restais que quelques minutes près du monastère, certain de pouvoir le visiter à mon aise au retour, ainsi que les belles maisons à toit plat des villages qui s'échelonnaient le long de la piste. J'avais encore un bon bout de chemin à parcourir et je craignais que le vent ne vienne m'empêcher de poursuivre ma route. Je me lançai à nouveau sur la grande chaussée de pierre qui traversait le cœur même de l'Himalaya. Je vis en passant sur ma gauche un autre monastère adossé à une falaise qui, beaucoup plus haut, était troué par plusieurs dizaines de cavernes. C'étaient les premières habitations troglodytes du cours supérieur du Kaligandaki. Tout en continuant de lutter contre le courant, je me disais qu'il nous faudrait les étudier en détail plus tard. Enfin, devant moi, j'aperçus les premières maisons de Tukucha. Je longeai le bas du village en faisant un vacarme de tous les diables à la recherche d'un morceau de berge que je pourrais gravir. Je dus aller presque au bout de l'agglomération pour trouver ce que je voulais, un petit pré qui s'inclinait doucement vers la rivière. Je décrivis une large boucle et abordai la rive de front. Je fis quelques mètres sur l'herbe et m'immobilisai. Je mis pied à terre. Une volée d'enfants courut vers moi, suivie de toute la population de la petite ville, quelques 600 personnes, y compris les mendiants et les moines. Bientôt, une foule hétérogène m'entoura. Des caravaniers et des marchands, des cultivateurs et des pasteurs, une vieille femme qui faisait tourner son moulin à prière et un homme qui portait une chemise très occidentale et un parapluie tout neuf. Ils étaient intimidés, mais parlaient quand même avec animation. Avec mon large pantalon orange tout détrempé et mon anorak bleu électrique gonflé par le vent, je devais leur paraître un épouvantail ou un monstre. Une véritable tempête soufflait maintenant dans la gorge, faisant claquer les drapeaux de prière sur leurs grands mâts plantés au faîte de toutes les maisons ou enfoncés dans la terre tout le long de la rivière. J'étais engourdi par le froid et la fatigue. Tremblant, claquant des dents, je fus incapable de supporter plus longtemps la température glaciale. Je revins à l'aéroglisseur, sortis de mon sac une chemise sèche et me changeai en public. Presque tous les Takalis parlent le tibétain et le népalais, en plus de leur propre idiome. Ils furent donc très surpris de m'entendre parler le tibétain et demander à brûle-pourpoint s'il y avait une maison où je pourrais boire de l'arak, car j'avais par-dessus tout besoin d'alcool pour me réchauffer. Leur réaction fut celle qui aurait accueilli un martien atterrissant au pays de Galles et qui, à peine sorti de sa soucoupe volante, aurait demandé une Guinness aux Gallois. En quelques secondes, tout le monde se mit à sourire et à rire et à me poser des questions. Ils voulaient tout savoir pourquoi je parlais tibétain et d'où je venais avec mon engin étrange. J'étais épuisé et pour cause, j'avais battu non seulement tous les records de vitesse entre l'été et Tukatcha, mais le matin même, j'étais à Katmandou. En quelques heures, j'avais effectué un marathon exténuant et insolite qui m'avait mené de Katmandou à Tukutcha en hélicoptère puis en aéroglisseur. À pied, le voyage aurait demandé 24 jours. J'étais maintenant à près de 3000 mètres, trempé et transi par le froid et à bout de force. Un jeune homme, que j'appris être le maître de l'école, me proposa de l'accompagner à sa maison. Toute la foule nous suivit. Je fis ainsi mon entrée dans la ville. Celle-ci se compose de magnifiques bâtiments de pierre au toit plat, construits sur un plan typiquement tibétain. Toujours sur les talons du maître d'école, j'entrai dans l'une d'elles par un porche voûté qui donnait sur une cour dallée, bordée sur trois côtés par des étables et des granges, où s'entassaient des sacs en peau de yak, pleins de sel et d'autres en laine de yak, remplis de blé et d'orge. Après avoir traversé la cour, nous passâmes sous une autre voûte qui nous conduisit, après quelques marches, dans une autre cour dallée très propre, flanquée de deux bâtiments d'un étage. Au rez-de-chaussée se trouvaient les cuisines et le cellier, à l'étage, la salle de séjour et les chambres. Les deux cours closes étaient inondées de soleil et parfaitement abritées du vent qui atteignait maintenant le maximum de son intensité quotidienne. Je me sentais bien dans cette maison, loin de l'agitation de la rue. L'épouse de mon hôte, une très jolie femme, m'apporta un verre d'alcool d'orge que j'avalai d'un trait, tandis que la jeune femme me disait combien j'avais l'air d'avoir froid. J'allais m'étendre sur la dalle chaude. J'avais, devant les yeux, le ciel bleu pâle, limité de chaque côté par les aiguilles neigeuses, dont l'une était le pic de Tukutcha, qui s'élève d'un seul jet à plus de 3000 mètres au-dessus du village. En écoutant le vent et le bruit des bêtes qui remuaient dans les tables, je ressentais une joie profonde. J'avais enfin atteint l'univers que j'aimais tant, ce monde dur et froid du grand Himalaya. Toute l'anxiété que j'avais éprouvée durant l'année précédente s'était évanouie. Je me sentais comme soulagé d'un pesant fardeau. Nous n'avions plus maintenant qu'une douzaine de kilomètres à parcourir pour atteindre notre but, le village de Marfa, qui marquait la sortie nord de la grande brèche de l'Himalaya. La victoire n'était pas loin. Je commençais seulement à me rendre compte combien tous ces mois de lutte m'avaient épuisé. Regardant le ciel, je pouvais entendre l'écho des gongs du monastère voisin et les clochettes d'une caravane qui passait en martelant les pierres de la rue principale de Tukutcha, cette minuscule portion de la grande piste vers le Tibet, piste qui, jusque ce matin, avait été le seul moyen d'accès à ce village du bout du monde.